les amphis d'Amicus.
Dans cette édition spéciale, les étudiants de Master 2 de l'Université Paris Panthéon-Assas prennent la parole et partagent leur regard sur des questions juridiques actuelles autour du micro d'Amicus Radio. Aujourd'hui, Anaëlle Heynolds nous parle de la Cour de justice de la République. Épisode 4, les critiques de la CJR.
Chers auditeurs, bonjour. Ces dernières années, la question de la suppression de la Cour de justice de la République, la CJR, n'a cessé de revenir sous la lumière et d'essayer de se concrétiser en vain. En 2012, François Hollande a promis lors de sa campagne présidentielle la suppression de la Cour. La commission de rénovation et de déontologie de la vie publique a, en novembre 2012, repris cette idée dans son rapport en concluant qu'une simple réforme de la Cour de justice de la République ne saurait suffire. Le projet de loi constitutionnelle du 14 mars 2013 avait prévu en son article 2 de supprimer le privilège de juridiction dont bénéficient les membres de gouvernement au profit des juridictions pénales de droit commun, y compris pour les actes accomplis dans leurs fonctions. Mais celui-ci a été abandonné. Quelques années plus tard, en 2018, Emmanuel Macron avait fait part de son intention de supprimer la Cour. Il y a donc eu un projet de loi constitutionnelle présenté au Conseil des ministres le 28 août 2019, mais il a également été abandonné, faute, là encore, de majorité suffisante pour mener à bien une révision constitutionnelle. Cette volonté répétée de supprimer la Cour de justice de la République est due aux multiples critiques qu'on peut lui adresser, qui portent à la fois sur son fonctionnement et sa symbolique, et qui seront le thème de notre épisode. Commençons par les critiques concernant son fonctionnement. Premièrement, il n'y a pas la possibilité d'interjeter appel de la décision de la Cour. Seul un pourvoi en cassation est possible. Cette faculté a fait l'objet d'un débat entre les parlementaires, certains considérant que la Cour devait être souveraine, tandis que d'autres soutenaient que le contrôle opéré par la Cour de cassation serait le seul moyen pour qu'il y ait un respect du principe de légalité des délits et des peines. Finalement, la loi organique prévoira, en son article 33, un recours devant la Cour de cassation. Qu'en pensez ? Le professeur Bargue nous a répondu la chose suivante. Dès lors qu'il s'agit d'une juridiction particulière, où les juges parlementaires jouent les rôles de jurés, on pouvait comprendre qu'il n'y ait pas de second degré de juridiction. Après tout, jusqu'à une époque encore récente, les jurés populaires étaient aussi considérés comme souverains. L'absence de second degré n'est donc pas choquant en lui-même. On ne va pas encore réunir une cour autrement composée pour un second procès en cas d'appel. Mais encore faut-il que la Cour de cassation joue pleinement son rôle. Or, le contrôle qu'elle opère s'est souvent montré lénifiant. En outre, devant la Cour de justice de la République, il n'y a pas de constitution de partie civile. Cela a conduit à des situations telles que l'avocat de Éric Dupond-Moretti a utilisé le terme de faux témoin pour qualifier la présidente du syndicat de la magistrature, Katia Dubreuil. Puisque c'est sous sa présidence que le syndicat de la magistrature et l'union syndicale des magistrats ont fait un dépôt de plainte conjoint pour la prise illégale d'intérêts. De plus, les plaignants et les victimes ne peuvent pas être représentés. Leur voix ne peut pas être entendue, ils n'ont pas d'accès au dossier, ne peuvent pas demander d'actes, ne peuvent pas interroger les témoins et ne peuvent pas plaider. Se pose aussi la question des témoins. Ils sont également tenus de prêter serment, avec les mêmes exceptions de parenté et d'âge que devant les autres juridictions pénales. Cela pose diverses difficultés. D'une part, sont parfois entendus à titre de témoins des personnes qui sont à l'origine de la plainte contre le ministre. Par exemple, cela a été le cas de Katia Dubreuil concernant le syndicat de la magistrature pour le procès d'Éric Dupond-Moretti. On se trouve alors dans une situation où le statut de témoin, dispensé d'ailleurs de serment, vient pallier l'absence de constitution de partie civile. D'autre part, et surtout, la Cour de justice de la République peut être tentée d'entendre comme témoin des personnes prévenues ou mises en cause comme co-auteurs ou complices pour les mêmes faits devant des juridictions pénales de droit de témoin. Tel est souvent le cas des directeurs de cabinet ou des conseillers ministériels. Ils sont alors, là encore, dispensés de prêter serment, mais il est surtout fréquent qu'ils refusent de comparaître, par crainte de s'auto-incriminer. Cette disjonction des procédures entre ministres passibles de la Cour de justice et conseillers relevant des tribunaux ordinaires dévalorise les témoignages et constitue un obstacle à la manifestation de la vérité. Ainsi, se retrouve l'idée évoquée par Madame le professeur Bargue d'une justice à deux vitesses peu cohérente. La Cour de justice de la République est réservée aux ministres, et donc les co-auteurs ou complices seront jugés pour les mêmes faits, mais devant des juridictions pénales de droit commun. Elle affirme qu'il arrive parfois que les tribunaux ordinaires se montrent plus sévères à l'encontre des mises en cause non-ministres que la Cour de justice à l'endroit du gouvernement. Ce fut particulièrement le cas en 2010. Charles Pasqua a été relaxé des faits de corruption passive dans l'affaire du casino d'Annemasse, alors que ses complices avaient été définitivement condamnés pour corruption active dans un arrêt rendu un an avant par la Cour d'appel de Paris. Des difficultés peuvent également être soulevées concernant le procès équitable. La commission d'instruction, qui a à la fois les fonctions d'instruction au premier degré, mais qui exerce aussi le rôle de l'équivalent de la chambre de l'instruction, de sorte qu'elle va juger elle-même la régularité de sa propre procédure. La seule possibilité sera donc de faire un pourvoi. Écoutons maintenant les critiques à l'encontre de la Cour de justice à la sortie du procès du sang contaminé par ceux qui l'ont vécu.
La nouvelle de relax est forcément une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qu'elle attendait avec confiance depuis de nombreuses années.
Il ne reste qu'un coupable, c'est Edmond Hervé. Les juges estiment que le secrétaire d'État à la Santé aurait dû imposer le test ou la destruction de tous les produits sanguins prélevés avant le dépistage. Il est condamné pour négligence. Condamné, mais dispensé de peine. Motif, la Cour relève que sa présomption d'innocence a été malmenée depuis 15 ans.
Elle n'a pas eu le courage de me relaxer totalement. Et elle n'a pas eu le courage de me condamner réellement. Cette décision qui est injuste, obtenue, je viens de le savoir, par 8 voix contre 7, montre que la politique partisane l'a emportée sur la justice et sur le droit.
Sylvie Rouy est une des 2 seules victimes dont la contamination est imputée à Edmond Hervé. La décision de la Cour ne l'a pas apaisée.
Pour moi, Hervé, c'est sûr, est coupable de ma contamination, mais il n'était pas le seul. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que les politiques, c'est comme les gangsters. Si on ne les prend pas la main dans le sac, on n'arrive jamais à les coincer.
La Cour est également décriée pour sa symbolique. Une première critique concerne son statut de juridiction d'exception et donc l'idée que les ministres ne sont pas des justiciables de droit commun. Cela pose une difficulté d'acceptation sociale de la décision, d'autant plus que celle-ci est prise en partie par des politiques. À l'heure actuelle où tout le monde proclame son attachement au principe d'égalité devant la loi, il est difficile de faire admettre à l'opinion publique que l'exercice de fonctions pacifiques, celle de ministre, justifie un traitement juridictionnel particulier. La deuxième critique concerne la composition de la Cour. Elle est en effet composée de 15 juges, mais avec seulement 3 magistrats du siège de la Cour de cassation. Elle est donc composée de 12 parlementaires, 6 sénateurs, 6 députés, ce qui donne à la Cour une forte coloration politique. Cela donne le sentiment d'un ministre jugé par ses pairs, facilitant ainsi les règlements de compte ou à l'inverse, la complaisance. Il est renforcé par le fait que sur 13 jugements rendus en 30 ans d'existence, la Cour a ordonné 6 relax, 2 condamnations assorties d'une dispense de peine, 5 condamnations de prison avec sursis et aucune condamnation à de la prison ferme. Il y a donc l'idée que les ministres bénéficient d'un privilège qui leur permet d'échapper à leurs responsabilités. Selon un projet de loi constitutionnelle du 14 mars 2013, les ministres devraient être jugés par les juridictions pénales de droit commun. On s'est donc empressé de demander au professeur Bargue ce qu'elle pensait et elle nous a répondu que cela ne lui semble envisageable que si d'une part on restreint aux seuls actes volontaires la compétence des juridictions ordinaires et si d'autre part on revivifie parallèlement les mécanismes de responsabilité politique. En outre, Vincent Brengart, avocat, a déclaré dans une tribune dans Le Monde que la suppression de la Cour est un devoir démocratique. On a alors demandé au professeur Bargue et elle nous a répondu qu'elle ne voit pas réellement ce que la démocratie a à voir là-dedans, sauf à en avoir une acception très large qui ne signifie pas grand-chose. S'il est nécessaire de supprimer la Cour, c'est en raison de ses dysfonctionnements, afin de ne pas laisser accroire plus longtemps que les politiques se protègent. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, Alice et Lucie vous parleront de l'avenir de la Cour de justice de la République.
Cet épisode des Amphis a été produit par Amicus Radio, avec le soutien de la Fondation Panthéon Assas, qui encourage et valorise l'entrepreneuriat étudiant. Merci à la professeure Cécile Chenet et à Aubin Jupin pour leur aide précieuse dans la coordination de ce projet. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.